Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames, bonsoir, mademoiselle et monsieur. Bienvenue aux rencontres Sciences Po Sud-Ouest. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder va être essentiellement la cause animale avec deux invités. Madame Jocelyne Porcher, sociologue, zootechnicienne et puis directrice de recherche à l'Institut national de recherche en agriculture, en alimentation et environnement, puisque c'est l'INRAE maintenant. Madame Corinne Pelluchon, bonsoir. Donc, vous êtes philosophe, vous êtes spécialiste de la philosophie politique et d'éthique appliquée, et vous êtes professeur à l'université de Gustave Eiffel et également à the New Institute de Hambourg. Voilà. Et nous accueillons donc deux étudiants de Sciences Po. Alors, nous avons Arthur Astori. Pardon, Manon Guillonnet, voilà, qui ont donc ont préparé, ont lu. Alors, l'idée c'était de partir du livre Pour l'amour des bêtes, qui est un échange épistolaire entre nos deux invités, qui ne partagent pas le même avis tout à fait sur la cause animale, mais on va en parler. Madame Porcher, vous défendez l'élevage paysan, hein, que vous opposez aux productions animales. Voilà. Et Madame, vous avez fait de la cause animale une question politique dont on va largement débattre ce soir. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Arthur, qui va commencer les questions.
Merci à toutes les deux d'être venues. La première question, je voulais savoir comment toutes les deux vous êtes intéressées à la condition animale et s'il y avait un événement en particulier qui vous avait marqué, qui vous avait poussé à rentrer dans cette lutte. Et je voulais commencer avec Madame Pelluchon.
Merci. Ça marche ? Oui. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que je travaillais sur une philosophie du corps, ou plutôt de la corporéité, qui prenait au sérieux la vulnérabilité, la passivité de tout vivant, le fait qu'il mange, qu'il boit, qu'il vit d'air, qu'il est aussi malade ou qu'il est fatigué. Bref, qu'il y a des phénomènes qui échappent à sa maîtrise et que ces phénomènes-là, souvent, la philosophie les avait considérés, s'agissant de l'humain, comme moins fondamentaux que la pensée, la volonté, la maîtrise, la conscience. Et donc, cette philosophie de la corporéité que j'essayais de mettre au point il y a une quinzaine d'années, quand je faisais également des visites dans des hôpitaux, en particulier dans des services de soins intensifs, de soins palliatifs, où je rencontrais des patients souffrant de maladies dégénératives du système nerveux ou de gens qui avaient qui étaient traumatisés crâniens ou enfin, en tout cas ou qui souffraient de problèmes de déficit dit cognitif, eh bien je m'interrogeais sur l'identité d'une personne qui a donc perdu ce qui traditionnellement est constitutif de notre identité, à savoir la mémoire, la pensée, la volonté, les goûts, les couleurs. Et s'agissant, j'ai approfondi quelque chose qui était déjà dans ma vie, qui était, puisque j'étais déjà à l'époque végétarienne, je dirais seulement végétarienne, j'ai aggravé mon cas ensuite. Mais du coup, la question animale, les animaux me sont apparus, que je ne mangeais pas, mais me sont apparus comme étant très proches de nous malgré leurs différences. Et voilà. Et donc, ça, c'est curieux, et je m'arrêterai là pour pas être trop longue, mais ce travail au départ intellectuel, peut-être parce que je faisais des visites d'hôpitaux et que c'est très émouvant de rencontrer des gens en fin de vie, notamment, où la vulnérabilité de l'autre m'expose à la mienne, ou en tout cas, pour être ouverte à la vulnérabilité de l'autre, peut-être faut-il aussi s'être détaché, dessaisi de ses identités classiques, etc. Eh bien, j'ai voulu savoir tout ce qui se passait avec les animaux dans les élevages, l'expérimentation, dans des pratiques parfois voilà, dans les eaux, etc. Et je me suis beaucoup documentée. Et curieusement, alors que je ne mangeais déjà plus d'animaux pour des raisons à la fois pour les animaux et pour le climat, etc., des choses qui m'intéressaient, eh bien, ça a fait cette disponibilité-là a fait que cet intérêt pour les animaux m'a, pour ainsi dire, kidnappée et est devenu essentiel. Et au point où j'ai vraiment eu le sentiment d'un tremblement de terre. Peut-être que la prise de conscience abstraite est quand même plus qu'abstraite, puisque ça avait des implications dans mes styles de vie, est devenue totale. Et alors, je crois que c'est ce que j'appelle être passé de l'autre côté du miroir et de ne jamais en être revenu. Et moi qui lisais Lévinas, qui parle de responsabilité pour la responsabilité de l'autre, de même pour ce qu'il a fait, ce qu'il m'a fait, la substitution, dans les années 70, eh bien, alors qu'il ne parle pas des animaux, moi, m'est apparu comme une évidence. Le fait que ce que nous faisons chaque jour aux animaux, que personne ne songe à assimiler à des machines, creusait les traits de notre visage, nous demandait qui nous sommes et nous accusait, et que ce soit des humains qui fassent ça, et la réalité dépasse la fiction dans les élevages industriels, dans certaines productions, ça m'a abattu, ça m'a fracassé.
Madame Porcher, vous êtes passée aussi de l'autre côté du miroir, tout en ayant commencé à travailler jeune avec des animaux.
Oui, alors pour ma part, je suis née rurale. J'ai quitté Paris quand j'étais jeune pour aller à la campagne. Et je me suis retrouvée progressivement à faire de l'élevage parce qu'il y avait des paysans dans le hameau à qui on achetait des œufs, à qui on achetait des poulets, et qui m'ont dit au fur et à mesure, mais pourquoi vous n'avez pas des poules? Et puis après, mais pourquoi vous n'avez pas des poulets? Et donc, petit à petit, comme ça, il y a eu des animaux dans ce qui est devenu après une ferme, mais qui n'était pas au départ. Et puis, j'ai senti que j'étais bien avec ces bestioles autour de nous. Et il s'est trouvé que j'ai fait un remplacement auprès d'éleveuses de chèvres qui avaient besoin de vacances et qui m'ont demandé si, à un moment où c'était pas nécessaire de traire, si je pouvais garder leurs chèvres. Alors là, j'ai passé un moment absolument heureux à rencontrer des animaux, à vivre avec elles comme ça. Et c'est ce que je défends dans l'élevage. Et je pense que c'est difficile à expliquer parce qu'il faut, c'est quelque chose de corporel, d'incorporé, d'affectif, de cette vie avec les animaux le matin, les odeurs, c'est extrêmement important, les odeurs des animaux, la bergerie, le toucher, et tout ça, ça m'a, alors, vous dites kidnapper, ça m'a happé. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. Et les animaux, cette vie avec les brebis, avec les poules, avec les oies, avec les chiens, les chats, etc., parce qu'on avait énormément d'animaux. Voilà, je me suis dit, c'est cette vie-là qui est belle. Et effectivement, elle est belle parce qu'elle est... Voilà, ouverte à tout ce que peuvent apporter les animaux, de sensibilité, de beauté, et puis d'interrogation, puisqu'ils sont... Voilà, on vit avec les animaux, mais eux, ils nous regardent sans arrêt, ils regardent ce qu'on fait. Et ça m'a beaucoup étonné, en plus de travailler avec les animaux, de voir leur gentillesse, enfin leur capacité à faire ce qu'on leur demande, par exemple la traite, ou même à anticiper... Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je travaille sur le travail des animaux aujourd'hui, parce que c'est dès cette époque que je me suis demandé pourquoi les animaux, pourquoi les brebis allaient sur le quai de traite, pourquoi les chiens de berger couraient après les brebis, pourquoi les animaux se sauvaient pas, puisqu'ils pouvaient. Enfin, voilà, toutes ces questions.
Et vous avez connu ensuite, quand je disais de l'autre côté du miroir, c'est que vous avez vu une autre forme de qu'on appelle élevage, mais que vous n'appelez pas élevage, qui est la production animale.
Mais oui, parce que je dis ça parce que c'est pour montrer la dimension de bonheur que portent les animaux, qui justement après j'ai dû quitter cette ferme pour des raisons personnelles. Enfin bref, j'ai repris des études agricoles, je me suis retrouvé dans une porcherie industrielle. Et là, justement, ça m'a fait un choc existentiel parce que je ne pensais pas que ça existait. Je pensais bêtement, puisque j'étais une rurale parisienne, que ce que je faisais, ce que j'avais appris, c'était ça l'élevage en fait. Il n'y en avait pas d'autre, puisque je connaissais que des gens qui faisaient ça. Et là, ça m'a vraiment, voilà, les truies attachées, le bruit, la violence, la brutalité des gens, leur absence de valeur, leur goût de l'argent, la grosse voiture, la grosse villa, enfin voilà, tout ce qui était à milieu de ce, qui
de ce que vous aviez connu. Oui.
Et la violence envers les animaux, parce que là, moi j'aimais les animaux, enfin j'avais été heureuse avec les animaux, les animaux étaient heureux avec moi, j'en suis sûre. Et là, bah, c'était la bêtise, la violence, la laideur, tout l'opposé. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est le malheur. Le malheur, et évidemment, moi, ça m'a absolument bouleversée. Et je crois que ça a décidé après de tout mon parcours, puisque j'ai repris des études. Depuis, voilà, c'était en 90, hein, donc voilà, c'est plus de 30 ans. Je ne travaille, je ne pense, je n'agis que pour changer ces systèmes industriels et défendre une autre façon de vivre avec les animaux, celle que moi j'avais connue. Puis depuis, évidemment, que j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai fait des enquêtes, etc. Enfin bref, donc voilà, c'est ça qui m'a.
Justement, j'aimerais continuer avec vous, Madame Porcher. Justement, ces dérives dont vous parlez là dans votre témoignage, à votre avis, est-ce qu'elles sont liées du coup au capitalisme industriel, ou est-ce qu'elles sont plutôt liées à une domination des hommes sur les animaux qui date depuis la nuit des temps?
Enfin non, je pense pas du tout les relations de domestication en termes seulement de domination, puisque en plus c'est même pas, moi je veux dire, c'est des travaux d'anthropologues qui ont montré que la domestication c'est un échange, enfin que les animaux domestiques, ils ont choisi, comme dit Bunyansky, la domestication. Donc voilà, il y a des relations asymétriques, ça, moi je ne le nie pas, puisqu'on tue les animaux, mais je ne situe pas tout ça dans des rapports de domination exclusivement. Il y a tout un côté, il y a l'affectivité, il y a tout ce que je viens de dire.
Mais du coup, pour vous, quel est le pivot du lien homme-animal, justement?
Le pivot, c'est l'affectivité. C'était le sujet, c'est ce que j'ai travaillé, parce que j'ai bien vu que c'était une différence entre ce que j'avais vécu, les gens que je connaissais et les gens des systèmes industriels qui écrasaient leur affectivité pour pouvoir travailler. Ce que j'ai montré après avec Christophe Dejour, la psychodynamique du travail, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, j'ai montré ça, qu'il y avait ce que la psychodynamique appelle des stratégies défensives contre la souffrance, c'est-à-dire qu'il faut se blinder contre la souffrance. Puis si on est blindé, ben on peut faire n'importe quoi. Si on est bien blindé, donc voilà.
D'accord, très bien, merci. Maintenant, j'aimerais passer à vous, Madame Peluchon. Dans notre société, donc, pour vous, quels sont les processus économiques, psychologiques ou sociétaux qui éloignent justement le consommateur, qui éloignent la viande de l'animal? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire cette distinction? Enfin, on fait plus ce rapprochement entre la viande et l'animal. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous?
Alors, ça, c'est... J'aurais bien aimé travailler, poursuivre sur ce qu'elle disait, mais
allez-y, quand même... allez-y,
oui,
rebondissez.
Bah, c'est-à-dire que alors, moi je suis née à la campagne d'ailleurs, je suis allée à Paris après. Vous voyez, on a un peu donc, du coup, quand vous parliez des odeurs, c'est vrai, hein, et de la gentillesse des animaux, le fait qu'ils nous regardent, c'est vrai aussi. Il n'y a pas que le côté noir, bien sûr. Ensuite, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, dire que il y a aujourd'hui sur cette question. On doit aussi la contextualiser. Bien sûr, Plutarque, dans l'Antiquité, dès l'Antiquité, disait « Qui es-tu pour faire couler le sang des bêtes ?» Hein. Il y a un végétarisme philosophique consistant à dire comment je peux faire couler le sang des bêtes pour me nourrir quand j'ai la possibilité de me nourrir autrement. Mais il y a une question, je crois, un végétarisme, je dirais, ou véganisme plus lié à notre contexte industriel et à la démographie. Hein, moi, quand je suis née, on était 3 milliards environ d'individus, on en est presque 8. Il y a une empreinte écologique de l'humanité en raison des modes de vie, et il y a des rapports de production, en particulier bon, dès le 19e siècle, Jocelyne sait très bien cela, mieux que moi, mais et surtout après la Seconde Guerre mondiale, cette généralisation de production, effectivement, de viande, qui font que les animaux sont détenus dans des conditions contraires à l'expression de leur sens, à leurs normes éthologiques ou leurs besoins de base, comme le besoin des poules d'étendre leurs ailes, etc., et contraire des conditions qui les rendent fous, hein, qui aussi sont contraires à leur subjectivité, puisque les animaux ont une subjectivité, ce n'est pas des consciences représentationnelles, ils sont ni kantiens, ni hegeliens, ni de droite et de gauche, mais ils vivent leur vie à la première personne, et ils éprouvent pas seulement le plaisir, la douleur et la souffrance avec un contenu psychique, mais ils ont aussi des préférences que leur biographie a conformées. C'est toujours quelqu'un, hein, voilà. Mais ils sont individués. Donc, mais c'est vrai que, et du coup, la souffrance, la violence envers les animaux, le fait de les détenir comme ça dans ces conditions qui les nient d'emblée, et bien, c'est un peu le coup de projecteur d'une société. D'un modèle de développement fondé sur l'exploitation illimitée des autres vivants et des humains. Et ce modèle-là broie les humains aussi, en particulier ceux auxquels on délègue la tâche très difficile de tuer un animal qui veut vivre dans des conditions terribles avec des cadences infernales. Donc du coup, c'est vraiment une question stratégique, importante pour elle-même, je dirais philosophique, et stratégique, c'est-à-dire qu'elle pointe du doigt les aberrations d'un modèle de développement qui a des contre-productivités sociales, mais également environnementales, sanitaires, et qui aussi psychiques, hein, qui nous déshumanisent, parce que pour supporter ce que, justement, certains font aux animaux dans leur travail pour gagner leur vie, il faut qu'ils se clivent, qu'ils usent de toutes ces stratégies psychologiques qui ont des répercussions aussi dans la vie, puisque ça les coupe d'eux-mêmes. Hein. Voilà.
Quand c'est on un veut pas. Que vous partagez, d'ailleurs.
Voilà, absolument. Mais c'est très important de parler de ça, parce que souvent on prend ces questions sub specie aeternitatis, indépendamment du temps présent, des conditions techniques, démographiques, sociales, et c'est une erreur. Hein, notamment quand on veut politiser cette question, c'est-à-dire arriver à réorienter l'économie et arriver à changer les modèles de production et de travail. Hein. C'est d'ailleurs au cœur de la transition écologique, qui n'est pas seulement le fait de lutter contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, mais qui est une autre manière d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres, humains et non humains, et qui a quatre volets, hein, environnemental, sanitaire, niveau de la dignité des personnes, de justice sociale et la cause animale. Voilà. Donc, mais je vais quand même vite prendre votre question, mais pour vraiment contextualiser cette question, parce que je le disais en coulisses, moi, dès que j'arrive quelque part, y a l'image de la végane de service qui me colle au front, hein, et ça me gêne toujours un peu, parce que même si c'est dans ma vie, il y a aussi un effort que j'essaie de faire pour arriver à dégager des pistes communes qui mettent ensemble des gens qui ne mangent pas d'animaux et d'autres, et pour arriver à changer ce modèle dont les contre-productivités aujourd'hui sont indéniables. Donc voilà. Hein. Et pour ça, voilà. Alors la viande, c'est vrai. Néanmoins, votre question est forte. C'est vrai que tout est fait. Plutarque le disait dans ce magnifique livre Il est loisible de manger cher. Il dit, voilà, tu me dis pourquoi moi je mange pas de viande. Mais regarde-toi, as-tu vu croquer comme ça de la chair animale sans la faire cuire, sans l'enrober de plein de choses, etc. Il y a la provenance de la viande. On voit pas la provenance qu'est un animal qui voulait vivre. Et là, moi, je suis née à la campagne. Et à la campagne, il y a donc très longtemps, hein, puisque, hélas... T'en passes, et bien, et on entendait le cochon qui était tué. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ces élevages industriels. Et là, au cœur, ça, on revient à la question que moi j'avais voulu qu'on mette au cœur de cet échange épistolaire, c'est le rapport à la mort. Le rapport à la mort et à la mort qu'on inflige à l'autre. Et voilà, et c'est vrai qu'elle est. C'est très violent ce qui se passe dans les élevages intensifs et les abattages comme ça de masse, parce que ce rapport à la mort, il est à la fois, il est là et en même temps, il est industrialisé, il est banalisé, etc. Hein, il n'y a pas le regard de l'animal qu'on tue. Montaigne disait qu'on ne devrait manger que l'animal qu'on a tué. Hein, voilà. Et donc, du coup, je pense que même si, bon, moi, effectivement, je trouve que ce serait bien que on voit ce qu'a coûté à l'humain et à l'animal la viande. Puis il faut voir aussi qu'on mange des animaux qui sont des bébés, hein, très jeunes. Voilà. Bon, moi, c'est vrai, j'en mange pas du tout depuis très longtemps. Hein. Mais en même temps, derrière votre question, il faut voir, il faut distinguer cette question abyssale, que chacun, à laquelle chacun répond en son âme et conscience, mais qui est toujours un vertige, qui es-tu toi pour faire couler le sang des bêtes ? Quel est ton droit à être ? Et cette question qui nous concerne tous et toutes, quelles que soient les conséquences qu'on en tire dans son style de vie, mais ce modèle de développement qui a des conséquences massives, on parlait tout à l'heure en coulisses de la déforestation au Brésil, etc., de l'usage massif de pesticides pour justement ces monocultures de soja hein, qui sont exportées pour le bétail américain et européen. Bon, tout ce système-là, il faut le démanteler. Voilà. Donc moi, je suis modérée, si vous voulez, c'est-à-dire que je ne fais pas de la police végane hein, en disant « Ah, là, il y a le morceau de viande » ou « Bon, hein, moi, je le suis ». Bon, c'est vrai que je voilà, si je peux convertir un petit peu des personnes, oui. Voilà, hein. Mais ce qui est vos démanteler, et pourtant je
oui,
me
c'est
sens
le modèle
pas,
de production.
Voilà, c'est ce que dit Jocelyne. Voilà, c'est le modèle de production, et pour ça, c'est vrai que et puis on est 8 milliards bientôt. Et les gens aujourd'hui, mes grands-parents, ils mangeaient de la viande 2 fois par semaine. Et la viande, même quand j'étais plus jeune, elle était chère. Maintenant, c'est les céréales qui sont chères. Donc là, il y a aussi une réflexion sur la valeur, le prix. Vous voyez que cette question-là, elle est explosive parce qu'elle fait bouger tout, pas seulement les limites que pour moi tracées arbitrairement entre celui qui dit tu ne tueras point l'humain et celui dont la mort provoquée ne serait rien, mais elle fait bouger fondamentalement toute l'organisation, l'armature conceptuelle qui sert à mettre en place ce modèle de développement dont aujourd'hui on sait qu'il faut en sortir. Et c'est ça que, en plus, vous, étudiants en sciences politiques, qui avez à traiter ce sujet... Eh ben,
Madame
voilà.
Péluchon, on va revenir sur un point sur un point important qui rejoint la question que va poser Arnaud à Madame Porcher. Madame Péluchon parlait de la mort de l'animal. Donc, vas-y Arnaud, tu avais une question sur la numéro 3.
Et du coup, c'est exactement la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que pour vous, la relation entre l'homme et l'animal, c'est est-ce que la mort est centrale dans la relation entre l'homme et l'animal, ou est-ce qu'il y a autre chose pour vous ? Vous parliez de l'affectivité tout à l'heure.
Non, oui, ce qui est central, c'est ça. C'est l'affectivité, c'est le lien, c'est le corps, c'est la l'incarnation dans la relation à l'animal. Après. La mort,
qui se termine par la mort. Voilà.
C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais voilà, la mort, c'est le bout du travail. C'est pas le but. Les éleveurs élèvent pas leurs animaux pour les tuer. Ils les tuent, et éventuellement, d'ailleurs, il y a plein d'animaux qui seront pas tués dans une ferme. Mais c'est parce que c'est le bout du travail. Alors pourquoi on tue les animaux ? Voilà, c'est ça la question. Pourquoi on tue les animaux ? Il y a deux grandes raisons. Il y a le fait que, mais bon, je résume en fait, hein, mais. Un système d'élevage, c'est un système fini. Donc, s'il y a des aides, mais c'est basique, mais c'est ça. C'est-à-dire, s'il y a des animaux qui naissent, il faut qu'il y ait des animaux qui partent. Et quand les éleveurs disent j'ai fait partir telle vache, c'est pas une litote, c'est je l'ai fait partir, j'ai fait quitter le système parce qu'il y avait d'autres qui étaient arrivés, parce que sinon il n'y a pas de ressources alimentaires pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est simple, on peut pas être immortel sur la terre, on peut pas être immortel. Voilà, si on est immortel, ben, il n'y a plus de naissance. Puis il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de vie. Quoi. Voilà. C'est une base, mais c'est comme ça dans un système d'élevage. C'est vraiment extrêmement important. Alors après, pourquoi on pourrait dire, ben, d'ailleurs ce que disent certains, ah mais à ce moment-là, il n'y a qu'à pas faire naître. Ben, comme ça, au bout d'un moment, il n'y aura que des vieilles brebis, et puis elles mourront de leur belle mort. Et puis... Eh ben non, c'est justement, c'est pas le but, c'est pas d'arrêter la vie, c'est pas d'arrêter la circulation, le cycle de la vie. C'est voilà. Alors ça, c'est une raison, mais qui est vraiment très très forte. Et puis il y a une autre, c'est que on est des omnivores et qu'on mange des produits animaux. Je dirais pas qu'on mange des animaux parce qu'on mange pas que de la viande. On mange des produits animaux. la viande, c'est pas le. D'ailleurs, quand on le voit dans beaucoup de peuples nomades ou autres, ce qui est central souvent, c'est le lait. Au contraire, c'est pas forcément la viande. Voilà, on mange des produits animaux parce que c'est nécessaire à notre santé. Voilà, c'est.
Et du coup, si la justement les produits animaux sont si centraux dans notre vie, pourquoi est-ce que justement la question de la viande en particulier est-elle si cachée, si désanimalisée finalement? Pourquoi est-ce que finalement on sépare fortement la viande et l'animal vivant?
Mais ça, c'est le fait de l'industrialisation. Ce n'était pas le cas, dans les sociétés paysannes. Là, il n'y avait rien de caché du tout. Au contraire, puisqu'on tuait le cochon dans la ferme. Et puis même moi, là, je veux dire, quand j'ai commencé à travailler à la campagne, il y a eu la fête du cochon. On avait été invité à... Moi, j'avais eu la tâche de tourner le machin pour les saucisses. Bon, voilà, c'était toutes des responsabilités dans le village des gens qui faisaient des petites choses tout autour de la... du cochon, la fête du cochon, voilà, c'était.
Ce qui n'est pas le cas dans un abattoir industriel. C'est non, pas la voilà. Fête du cochon. On est bien d'accord. Vas-y.
Oui, du coup, alors là, je vais changer un tout petit peu de sujet, mais du coup, je vous redonne la parole, Madame Pelluchon. Justement, Madame Porcher parlait de l'affectivité. Est-ce que justement pour vous l'affectivité que souvent certains traitent d'anthropocentrisme, est-ce que pour vous l'anthropocentrisme est très condamnable? Est-ce que pourtant c'est pas un moyen, en nous mettant à la place des animaux, de nous rapprocher d'eux?
Vous parlez d'anthropomorphisme plutôt.
Pardon, excusez-moi, anthropomorphisme en réalité.
On peut pas se mettre à la place des animaux et même vis-à-vis des humains, on comprend quelqu'un quand on comprend qu'on ne comprend pas. Ben non, mais c'est pas une blague. C'est, je pense que le respect, c'est aussi savoir à quel point l'autre vous échappe. Et les animaux sont très différents de nous. Leur organe perceptif, un chien, ils ont des odeurs, ils ont des organes perceptifs différents. Leur monde est configuré différemment. Donc, effectivement, moi, je valorise quand même la capacité à souffrir pour l'autre, à ne pas supporter que un animal qui veut vivre soit détenu dans des conditions abominables, voire tué. Que on parle beaucoup de l'alimentation, mais il y a aussi la captivité. Bon, moi, j'attends avec impatience. On va me détester, mais c'est pas grave. Bon, je suis habituée un petit peu quand même. Moi, j'attends avec impatience l'abolition de la corrida, que j'exècre à un point. Vous pouvez pas savoir. Mais parce que pour moi, c'est le spectacle, on a employé le mot domination. Je crois que l'élevage, c'est effectivement différent. Puis l'élevage, on ne tue pas toujours, la laine, etc. Mais puis il y a la lactation continue pour la lait. Mais alors, les jeux qui consistent à torturer un herbivore, pour moi, l'abolition, mais immédiate. Immédiate, et en plus c'est un délit dans les autres régions, donc voilà. Et puis il y en a un paquet d'autres pratiques.
Il y a une évolution sur les cirques,
oui, pas les cirques sédentaires. Et puis bon, il y a encore beaucoup de choses qui se passent là aussi. Quand on met le nez dans ces histoires, on voit aussi la misère humaine. Et on comprend en même temps, vous voyez, je dis ça. Bon, moi, c'est sûr, l'abolition de la corrida, je donnerais beaucoup pour ça. Et si elle est abolie, bien, qu'est-ce que je serais contente, mais je crois la fête pendant. Bon, mais en même temps, je comprends tout à fait que les personnes qui sont pour la corrida ou la chasse à courre, ou il y a une construction d'identité, c'est-à-dire que donc ça pour eux, c'est assez violent ce que je dis là. Et en même temps, moi, je leur en veux pas parce que l'identité, chacun la construit comme il peut. C'est social, c'est aussi une image de la virilité, c'est aussi bon. Et déconstruire, ça fait toujours un peu de mal. Néanmoins, est-ce qu'on peut quand même vouloir qu'il y ait de l'empathie, qu'il y ait du care, du souci pour l'autre, et accepter spectacle d'un herbivore supplicié et avec l'idée d'une certaine jouissance prise à la souffrance de cet animal, puisque c'est quand même, à la différence des spectacles, par exemple des dauphins dans les delphinariums, qui sont pas heureux d'être dans une piscine chlorée, les gens croient qu'ils seront heureux, alors que là, la corrida, franchement, bon, je sais qu'il y a des philosophes qui disent qu'ils souffrent pas, le taureau, mais il y a vraiment la raison est souvent l'instrument du déni, hein, mais là vraiment il y a quelque chose. Donc moi je pense que, alors là je vais faire hurler Jocelyne alors qu'on est d'accord sur quand même beaucoup de choses, mais moi je pense que vraiment le progrès moral c'est aussi de d'élargir la sphère de sa considération et de penser et de sentir que les animaux comptent et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire et les faire souffrir inutilement. Et il y a quand même, on peut tracer la liste précise des pratiques dont il s'agit d'abolir, pardon. Et voilà. Alors, parce que ça fait partie, il y a des traditions qu'on a bien été content de faire sauter. C'est le progrès. Voyez, moi, j'ose employer la notion de progrès, même si ce progrès, comme dit Adorno, il commence là où il se termine, c'est-à-dire qu'il faut en finir avec une certaine idée de la croissance, continue, etc. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui et dont la cause animale est le nom, dont le souci de beaucoup, notamment des jeunes, pour la cause animale est le nom, c'est justement passer à un autre stade dans la perception de ce que nous sommes et de nos rapports aux autres vivants. En particulier à ces autres humains, à ces autres vivants qui, comme nous, sont faits de chair et de sang, et comme nous, sont vulnérables, et comme nous, sont mortels. Et si ils n'imaginent pas qu'un jour ils mourront, contrairement à nous, la mort, moi pour moi, c'est central, le rapport à la mort, dans la constitution de sa liberté. Et mais n'empêche que quand ils voient la mort venir, ils ont peur aussi. Donc voilà.
Merci. Manon, je pense que c'est Manon qui va poser les questions qu'elle a préparées. Vas-y Manon.
Jocelyne Porcher, nous aimerions revenir au problème fondamental moral de l'élevage et de ce qu'il implique. Donc, comme vous avez dit, la mort qui est l'aboutissement d'un processus. Donc aussi propres peuvent être les pratiques paysannes. La question éthique du pouvoir de vie ou de mort des hommes sur un autre être vivant ne se pose-t-elle pas ?
Je crois qu'elle se pose. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un rapport asymétrique. Il faut l'assumer comme ça, depuis les processus de domestication. Et c'est vrai pour tous nos rapports de travail avec les animaux. Parce que c'est ça, comment la clé de nos relations, c'est qu'on travaille ensemble. Voilà, depuis 10 000 ans, ce que j'ai développé dans mon travail et que je développe avec l'équipe que j'anime, c'est la question des rapports de travail qu'on a avec les animaux et la centralité du travail dans nos relations aux animaux domestiques. Voilà, ça, c'est la question du travail, elle est centrale. Ça fait l'objet de nos échanges avec les animaux de compagnie, avec les animaux de ferme, etc. Et pour ma part, je ne différencie pas les différents animaux. Tous, c'est des animaux domestiques et tous, nos relations sont articulées par le travail et puis parce que je l'ai développé par ailleurs, par les rapports de dons contre dons, etc. Mais les deux, ce sont nos relations aux animaux. Alors après, je ne me rappelle plus ce que vous m'avez demandé.
La question éthique du pouvoir de vie ou de mort.
Oui, mais c'est justement parce que comme on est dans des rapports de travail, nous on est dans des rapports de survie. Avec nous, il faut manger, parce que je pense que c'est ça qu'oublient beaucoup de défenseurs des animaux, c'est qu'on mange tous les jours, c'est qu'on est, comme vous disiez, 8 milliards. Voilà. Et donc, il y a des endroits sur la planète, par exemple, là, j'ai vu récemment des films sur la Mongolie ou le Tchad, où les gens, s'ils ne font pas d'élevage, bah, ils meurent, tout simplement. Donc, est-ce que nous, occidentaux, on a un principe moral, il ne faut pas tuer les animaux, il ne faut pas tuer son prochain, parce que maintenant, les animaux sont nos prochains, donc il ne faut pas tuer son prochain. Bah, c'est ça, quand même. Si on dit qu'il ne faut pas tuer les animaux, bah pourquoi ? Pourquoi il ne faudrait pas tuer les animaux ? Alors que dans la nature, les animaux, évidemment, tuent et mangent. Enfin, c'est la base de la... Voilà, c'est surtout... Et nous, on est dans ce rapport-là avec les animaux. Il faut manger. C'est-à-dire que quand vous dites on peut faire autrement, moi, je dis non, on ne peut pas faire autrement.
Du moins, voilà. Pas partout.
Non, voilà. Non, on ne peut pas... Nous, là, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Vous pouvez faire autrement. Globalement, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que... Voilà, les enfants, et je connais des véganes qui donnent une alimentation végétarienne à leurs enfants. Alors, je pense que c'est grandement le cas, des personnes âgées, etc. Enfin, et puis, c'est pas Voilà, c'est une démarche, enfin bon, c'est la vôtre, c'est un travail sur soi, un travail, comme ça a été montré par des chercheurs, c'est un, voilà, un travail, c'est un travail de se passer d'alimentation issue des animaux dans une société où, où c'est la base. Voilà, donc c'est, mais tout le monde n'est pas prêt à faire ce travail, tout le monde ne peut pas le faire. Et en plus, enfin même techniquement, je veux dire, c'est le fait de pas consommer d'animaux du tout, pas de produits animaux, ça veut dire qu'il faut se complémenter, notamment en vitamine B12. Enfin ça c'était largement montré que l'absence de vitamine B12, c'est catastrophique. Voilà, la société végétarienne et la Vegan Society insistent beaucoup pour que voilà les véganes prennent des produits minéraux, qu'ils n'oublient pas leur vitamine B12, etc. Donc c'est un principe moral, tout le monde va prendre de la vitamine B12 tous les matins, on va produire massivement de la vitamine B12 pour 8 milliards de personnes. Non, donc on ne peut pas faire autrement. Voilà, moi c'est déjà le premier point, on ne peut pas collectivement, du point de vue de l'alimentation. Alors en plus, c'est pas ce qui m'intéresse l'alimentation, ce qui m'intéresse c'est la relation aux animaux. Et voilà. Et
si parler de dons d'ailleurs. Alors,
de dons contre dons.
C'est un don de l'animal à l'éleveur et l'éleveur qui lui donne.
C'est-à-dire, c'est en entendant les éleveurs dire sans arrêt les animaux donnent beaucoup, il faut donner beaucoup, les animaux donnent beaucoup. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai cherché la théorie du don de Marcel Mauss. Et je pense que c'est une bonne théorie pour comprendre la relation domestique avec les animaux. C'est ça qui se passe, c'est le triptyque du don. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit. C'est ce que je vivais avec mes brebis, sans le savoir, mais c'est exactement ça. Et donc, articulé à la question du travail, ça permet de comprendre les relations domestiques avec les animaux. Et effectivement, la place de la mort, là, cette fois, articulée avec celle de l'alimentation et du fait que non, on ne peut pas faire autrement. C'est quand même, pour moi, c'est vraiment la base que partir de l'idée... Pourquoi manger des animaux alors qu'on peut faire autrement? Non, on ne peut pas faire autrement. Donc, la question, c'est à quelles conditions? Voilà, évidemment, sortir des systèmes industriels, c'est évident. Mais après, mais même en élevage, même l'élevage paysan que je défends, évidemment, il y a des tas de choses à changer sur l'espérance de vie des animaux. Moi, j'anime un programme de recherche sur la retraite des animaux. Enfin, voilà, on peut faire évoluer beaucoup de choses, mais on ne fera pas. Voilà, garder l'élevage paysan, garder l'élevage et manger évidemment 1000 fois moins de viande, 1000 fois moins de produits animaux, installer 1 million de paysans qui produisent localement, etc. Voilà, c'est comme ça, moi, que je vois l'avenir de
nos relations animaux. Cette notion du don, Madame Peluchon.
D'abord, on peut quand même manger autrement, mais c'est pas facile. Hein, et il s'agit pas de l'imposer. Néanmoins, ce qu'il s'agit quand même de penser, c'est qu'à 8 milliards et demi d'individus, s'ils mangent tous les jours de la viande, les élevages à la ferme suffiront pas. Donc la demande en produits animaliers de 8 milliards et demi de personnes, elle explique aussi des aberrations. En Chine, près de Wuhan, tristement célèbre, il y a un gratte-ciel de 26 étages pour 650 000 cochons. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Je ne veux pas. Donc, alors, du coup, comment pouvons-nous faire pour amener les personnes à avoir du plaisir à manger autrement? Puisqu'il va falloir réduire, là on est d'accord, réduire la consommation carnée. Même l'OMS le dit, pour des raisons écologiques, mais aussi sanitaires, il y a quand même... Alors, les chiffres ont augmenté avec la guerre en Ukraine, mais avant la guerre en Ukraine, il y avait environ 900 millions de gens qui souffraient de faim et 2 milliards de malnutrition. Puis, dans nos pays, beaucoup de diabète, beaucoup d'obésité. Enfin, ça fait combien de milliards d'individus qui ont des problèmes avec l'alimentation. On devrait peut-être quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour, 3 fois par jour? Bon. Du coup, il y a aussi, on a été dessaisis de notre savoir-faire parce que les personnes y mettent le micro-ondes. Moi, quand je vais chez des gens, c'est une torture. Enfin, moi, je suis toujours torturée, de toute façon, ça ne change pas. Mais quand je vois ce jambon, quand je sens ces odeurs et que je vois le micro-ondes, j'ai envie de fuir. Et pourtant, je suis nulle en cuisine. Mais... quand même, beaucoup de véganes savent, parce que là, on est obligé, effectivement, les lentilles, les légumineuses, les céréales, les légumes, etc. Et ça ne devrait pas être si cher. légumes. Hein. Mais il n'y a pas que des légumes et des carottes. Hein. Moi, ça fait quand même donc plus de 20 ans végétarienne et 8 ans végane. À chaque fois, même à Paris, dans les restaurants, j'ai encore un brocoli qui se bat en duel avec une carotte et une pomme de terre. Bon, voilà. Donc, c'est quand même... qu'il n'y ait pas plus d'imagination, l'imagination au pouvoir. Dans la mode, il est possible de se passer...
Ça commence quand même un petit peu.
Oui, bah, pas assez. La mode, deuxième pollueur du monde, avec des problèmes de délocalisation, les jeans, parfois, la fermeture éclair est faite au Pakistan, des ateliers de misère, pour que la fourrure, mon ennemi, avec la corrida, eh bien, pour que la fourrure... Mais la fourrure, on élève des animaux, on les capte, pour ça, alors que le cuir, c'est un dérivé de l'élevage, mais des abattoirs. Mais il faut, pour transformer la peau en un produit que certaines peuvent se mettre dessus, il faut quand même beaucoup de produits chimiques, etc. Bon, enfin, il y a tout un tas de problèmes, et puis il y a une innovation. Moi, je crois que on peut pas d'abord savoir de quoi sera fait demain. Parfois vaut mieux, parce que si on réfléchit trop, on a peur. Mais on peut aussi espérer que les innovations culinaires dans la mode permettront de limiter la mise à mort des animaux. Moi, il y a Hume qui avait repris par Rawls, un bouquin en sciences politiques, vous devez savoir ça, créer les circonstances de la justice, permettant justement, bon, parce que Rawls, il dit bien que son programme de sa théorie politique comme justice, dans les années 70, elle vaut dans les circonstances de la justice, qui sont une rareté modérée, fini ça, et voilà, en particulier. Eh bien, il faudrait aujourd'hui créer des circonstances de la justice où on fasse son bien avec le moins de mal possible pour les animaux, et aussi pour les générations futures et pour la planète. Bon, ça, c'est un programme politique majeur. Avec ça, on change la vie. Avec ça, on change la vie et on n'a même pas besoin d'être végane. Bon, s'il y a de plus en plus de véganes, on sera content. Hein, mais voilà, on garde les élevages à la ferme. Parce que les élevages à la ferme sont menacés par une demande trop grande en viande. Donc, il faut bien aussi éduquer les personnes à manger autrement pour que celles et ceux qui veulent manger un peu de viande aillent chez les éleveurs qui font les choses bien et qui sont mises en danger par un système aussi d'échange qui est inique. Hein. Et donc, du coup, vous voyez, il n'y a pas, d'une certaine manière, l'opposition végane-non-végane, elle tombe à côté des grands défis que nous avons, la réorientation de l'économie, les changements des modèles de production et éventuellement, enfin, et aussi les changements des styles de vie qui n'ont pas besoin de véganes cadavériques, moches et méchants pour changer, mais au contraire de gens stylés, un peu heureux, ça c'est difficile, mais voilà, séduisant. Hein.
Manon ?
Alors, en juillet 2021, nous avons assisté à l'émergence d'une ébauche de référendum d'initiative partagée centrée sur la thématique du bien-être animal. Mais à ce jour, il reste bloqué au stade des soutiens des parlementaires car il n'en a pas recueilli assez pour poursuivre le processus, tant sur la forme que sur le fond. Que pensez-vous de ce projet ? Le soutenez-vous, Madame Porcher ?
Non, évidemment, non, je ne soutiens pas du tout. Je pense que, justement, ça s'inscrit dans les alternatives à venir qui ne sont pas... Alors, c'est, oui, vegan, pas vegan, c'est vrai que c'est pas le... Mais sauf que ce vegan, pas vegan, il porte d'autres enjeux beaucoup plus discrets, dont ce RIP fait partie, du fait de la... la place que prend la question animale dans les transformations de l'alimentation et la mise sous tutelle de notre alimentation par les multinationales et notamment celle du capitalisme numérique. Donc derrière le RIP, effectivement, il y a, alors je ne me rappelle plus, là, je crois que c'est Xavier Niel d'ailleurs, qui est à l'origine de ce RIP. Donc bon, voilà, milliardaire, intéressé par l'agriculture cellulaire, etc. Je pense que l'articulation entre les enjeux des relations aux animaux, de la transition écologique, etc., de vegan, pas vegan, il y a derrière ça, derrière le véganisme, il y a l'agriculture cellulaire, ce que j'ai montré dans Cause animale, cause du capital. Et je pense que ça, il ne faut pas le faire comme si ça n'existait pas, que le véganisme n'étant pas l'alternative au système industriel, n'étant pas l'alternative au système industriel qui pose problème à l'industrie des productions animales elle-même, puisque les premiers aussi maintenant à investir dans l'agriculture cellulaire, c'est l'industrie de la viande, parce qu'ils cherchent voilà, à sortir de ce marasme-là, de cette industrie effectivement dont ils savent qu'elle est condamnée, en fait. Je pense qu'ils le savent très bien pour des raisons environnementales, morales et du point de vue de la santé humaine et animale. Et donc, les alternatives qui arrivent, voilà, elles sont derrière le véganisme. Quand les associations de défense des animaux, et les plus grandes comme PETA ou les associations européennes défendent, avancent que la viande in vitro, c'est une alternative au système industriel, bah, évidemment, on reste dans le même système économique. On va remplacer un système industriel pourri par un autre système industriel tout aussi pourri. Il fera de la viande cultivée. Enfin, voilà, l'agriculture cellulaire, c'est ça. C'est la viande cultivée en laboratoire, la cellule.
Le mot bien-être animal, je sais que l'expression ne vous plaît pas. Vous dites que c'est l'autre côté du capitalisme.
Oui, non, mais le bien-être animal, ça n'a rien. Enfin, je veux dire, ça, d'ailleurs, c'est terminé. Je veux dire, il y a des chercheurs... pas seulement de l'INRA, mais entre autres de l'INRA, qui ont enfin dit, bon, voilà, ça fait 30 ans qu'on fait du bien-être animal, OK, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça n'a pas... S'ils le disent eux-mêmes. S'ils le disent eux-mêmes, ils l'ont dit eux-mêmes, et ça fait 30 ans que je le dis, donc je suis contente qu'ils le disent aussi, parce que c'est effectivement la question de bien-être animal, elle est arrivée en même temps que l'industrie, dans les années 60, en Angleterre, avec le livre Animal Machine de Ruth Harrison,
C'est un prétexte pour légitimer.
C'est-à-dire que l'industrie de la viande s'est dit, il faut qu'on améliore un peu ça, qu'on rende ça un peu plus lisse, un peu plus acceptable socialement. Et donc voilà, Animal Welfare, voilà, ça fait 30 ans que ça dure, des milliers de publications, des millions injectés dans cette problématique, tout ça pour que rien ne change pour les animaux, absolument rien. Donc voilà. Et là, la solution, et j'insiste sur l'agriculture cellulaire, parce que c'est ça qui se profile. Le bien-être animal ne sert à rien. Le véganisme collectivement, c'est impossible. Donc voilà, la seule solution qui reste, c'est de produire de la viande autrement. Mais c'est ce que disent les concepteurs de la viande in vitro. Voilà, c'est pareil. La viande in vitro, c'est pareil, sauf que bon, elle est produite à l'extérieur de la vache. Voilà, déjà, ça donne le ton sur ce que c'est que la vache pour ces gens. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes industriels, ils vont disparaître. Mais moi, l'enjeu, c'est qu'ils ne disparaissent pas pour l'agriculture cellulaire, c'est qu'ils disparaissent
pour l'élevage
paysan, ouais, parce que l'agriculture cellulaire, c'est la suite de ce qui précède. Ce que je dis dans Cause Animale, c'est les mêmes enjeux, c'est les mêmes acteurs économiques. On reste dans la violence du système capitaliste. Et l'élevage paysan, effectivement, là, ça signera son arrêt de mort complet, puisque voilà, il n'y aura plus d'enjeux moraux derrière le.
Madame Peluchon, sur cette idée que derrière le véganisme, l'alternative, c'est la viande cellulaire.
En tout cas, pas pour moi. Mais je reviendrai à la question du bien-être animal. Oui, c'est un outil qui sert d'alibi, qui a été mal utilisé. Néanmoins, moi, je serai moins sévère, parce que dans les 5 libertés du bien-être animal, les premières étant des libertés dites négatives, soustraire l'animal au froid... à la fin, lui procurer un abri, lui prodiguer des soins. Bon, après, il y a les deux dernières qui sont faire en sorte qu'il soit détenu dans des conditions compatibles avec l'expression de la plupart de ses besoins de base. Et puis, le fait attester que l'animal éprouve de la souffrance psychique, éviter qu'il soit ennuyé, qu'il s'ennuie, qu'il ait du stress et de la souffrance et de l'anxiété. C'est pas littéral, mais vous regardez ces 5 libertés. Eh bien, je trouve qu'avec cet outil, fût-ce un outil imparfait, eh bien, on peut s'opposer à l'élevage industriel. Les truies gestantes dans des stalles, c'est pas possible. C'est des libertés positives, ça veut dire que l'éleveur ou les personnes sont obligées de fournir à l'animal des conditions permettant à ce dernier d'exprimer la plupart de ses besoins éthologiques. Moi, j'avais utilisé cet outil imparfait quand j'avais été invitée par le groupe Kering, je travaillais avec gratuitement, je le dis parce que c'est important pour être indépendant. Je suis pauvre, mais libre. Mais du coup, je serai toujours pauvre. Eh bien, j'avais la fondation dite Hulot, enfin Nature et Homme, avait travaillé avec Kering et il voulait quelqu'un sur la question animale et pour devant des designers Gucci et autres. Et moi, j'avais utilisé, évidemment, je n'avais pas brandi mon véganisme en disant arrêtez tout, hein, parce que ça n'aurait pas marché. Mais j'avais brandi cet outil en disant il ne faut pas faire mentir les outils que nous avons, ni les sciences. Et avec cet outil-là, ben, les visons, qui sont des animaux semi-aquatiques, ben, ils n'ont rien à faire dans des cages. Voilà. Et puis, indépendamment du fait qu'aujourd'hui, se nourrir, se vêtir, eh bien, c'est aussi dire dans quel monde on veut vivre. Quand on sait aussi que parfois notre bulletin de vote a peu d'influence, ce qui est faux en fait, il y a quand même de l'influence, mais c'est vrai que
la consommation,
trois fois par jour en mangeant, et c'est aussi une manière de se revêtir de produits qui reflètent un peu ce qu'on est. Ce qu'on est, l'attestation, disons, Ricoeur, hein, qui a la même racine étymologique en allemand, Bezeugung, Überzeugung, conviction et témoignage. Témoigner devant les autres du monde qu'on aimerait et de ce qu'on veut pas, déjà. Donc voilà, je pense que ça, les groupes, les gens dans la mode, les gens dans l'agriculture, comme ils ont des clients, ils savent que les personnes aujourd'hui qui se sentent dépossédées de beaucoup de choses, de leur souveraineté aussi, eh bien, la retrouve d'une certaine manière en achetant. Et ça a un impact. Donc, je crois que... Voilà. Alors, je ne me rappelle plus votre question, mais j'ai un peu... Bon, voilà.
Non, vous avez répondu.
Bon, moi, la viande cellulaire, voilà, ça ne m'attire pas. Je pense qu'il est important d'apprendre à manger autrement, car quand même, et moi, la première, avant que je réagisse, il y a quand même déjà longtemps, eh bien... On n'a pas appris vraiment à cuisiner. On achète tout fait, ces produits. Je crois que là aussi, on ne peut pas... Le manger, c'est important. C'est ce qu'on incorpore quand même. Le bien et le mal se mangent aussi, disait Derrida. Et manger un animal qui a toujours souffert, c'est quand même problématique. Comment voulez-vous que l'humanité s'en sorte si elle mange des animaux qui, du début à la fin de leur brève vie, ont souffert? Moi, je préfère plus manger dans ce cas.
Alors,
Jocelyne Porcher, dans une interview donnée au magazine La Ruche qui dit oui, vous avez déclaré que les vidéos de L214 étaient une prise d'otage morale. Pour rappel, L214 est une association de loi 1908 qui se fixe pour mission de rendre compte de la réalité des abattoirs. Vous qui militez pour la généralisation de l'abattage à la ferme, pourquoi êtes-vous aussi sévère à leur égard ?
Alors déjà parce que L214 a pour objectif, et c'est une association abolitionniste, donc qui vise à abolir les relations de domestication avec les animaux. Ça, c'est leur objectif, voilà, on va dire, central. C'est le but de cette association. Après, ils procèdent étape par étape. Donc, dans un premier temps, la cible visée, c'est l'élevage. Voilà, pas seulement les systèmes industriels, l'élevage aussi. Donc, l'élevage paysan, voilà, c'est et donc, voilà, j'ai aucun intérêt pour cette association. En plus, bon, comme je l'ai décrit dans Cause animale, Cause du capital, elle a des façons de fonctionner qui ressemblent beaucoup aux façons de fonctionner de l'industrie de la viande. Moi-même, j'ai fait un travail de déconstruction des méthodes de propagande, etc., de l'industrie de la viande porcine, un livre qui s'appelle Cochon d'or, l'industrie porcine en question. J'ai déconstruit le système de communication de la filière porcine, ses mensonges, la façon dont elle discrédite des personnes. Enfin, puis, comme j'en ai été victime aussi, comment elle fait passer par des livres, des prospectus dans les écoles, voilà le message. L214, c'est exactement la même chose. Ils sont entrés dans les écoles, ils donnent leur petit livret de propagande, dans lesquels ils promeuvent la viande in vitro.
Est-ce que néanmoins, quand même, il n'y a pas des moments où les vidéos de L214
non.
Permettent de voir ce qu'on ne peut pas voir
non,
en étant simple consommateur.
Je veux dire, ça fait à partir du moment où les systèmes industriels sont nés, ils ont été critiqués, ils ont été dénoncés. On pouvait savoir tout à fait comment étaient produits les animaux. L214, depuis 2008, et un peu plus, a eu une montée fulgurante parce qu'ils servent des intérêts économiques, ce que je dis dans Cause animale, cause du capital. Ils sont nés en même temps que la viande in vitro. En fait, en 2008, il y a les premiers travaux sur la viande in vitro. En 2013, il y a le premier hamburger in vitro médiatisé par Mark Post. En 2008, 2008 également, PETA promet $1 million au laboratoire qui produirait de la viande in vitro. Et L214, son rôle à L214, c'est de préparer la demande de produits de l'agriculture cellulaire. Voilà, c'est ça le rôle d'un méga point de vue des superstructures. Après, le fait qu'ils aient fait des vidéos, comme dénoncer certaines choses, ça serait bien, ça serait intéressant si ils disaient, comme là par exemple avec les histoires de chèvres de chèvres maltraitées, s'ils disaient cette industrie laitière des chèvres, c'est immonde, je le sais pertinemment, mais c'est pas comme ça qu'on élève les chèvres partout. Et en plus, je connais pas mal d'éleveurs de chèvres, donc je sais vraiment comment sont élevées les chèvres par ailleurs. Donc voilà. Et donc on fait cette association se fait croire que c'est comme ça l'élevage. D'ailleurs, c'est pour ça que des tas de jeunes deviennent véganes, parce qu'ils regardent des vidéos du 114. Ils font pas ce que j'ai fait, c'est-à-dire de dire attention, l'élevage et production animale, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même monde, c'est pas la même histoire, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes objectifs. Ça n'a rien à voir. L'élevage a été phagocyté par le capitalisme au milieu du 19e siècle. Il a produit ces productions animales immondes, que je dénonce donc depuis très longtemps. Mais l'élevage n'a pas disparu. Moi, je travaille avec des éleveurs. Là, j'étais avec des éleveurs de chèvres il n'y a pas longtemps. Là, je vais aller voir un éleveur de bovins et de cochons. Ces éleveurs-là,
En même temps, il y a quand même la réalité, c'est pas tant les éleveurs que vous voyez que quand même cette massification d'élevage industriel.
Cet élevage industriel, il faut en sortir, mais il faut en sortir par le haut, c'est-à-dire pas par l'agriculture.
Mais il faut aussi de la conflictualité. C'est-à-dire que la démocratie, c'est aussi rendre possible l'expression de points de vue divergents, voire opposés. Et je pense que vraiment, ils ont fait bouger les lignes. Ce ne sont pas les seuls. Qu'ils aient un horizon qui est abolitionniste, d'abord, ils ont le courage de le dire. Ensuite, quand même, les associations aujourd'hui savent que si on veut arriver à des résultats substantiels, il faut d'abord démanteler ce système de production industrielle. Et ça ne peut pas se faire seulement avec les changements dans les styles de vie, ça c'est sûr, mais ça ne peut pas se faire sans les changements dans les styles de vie, c'est-à-dire la réduction drastique par chacun et chacune de sa consommation de viande, et par une réflexion aussi abyssale, mais qui nous concerne chacun, chacune, c'est est-ce que manger la viande, c'est réfléchir aussi à ce qu'il y a derrière ce carré bien découpé où on a perdu la provenance de la viande, surtout dans un milieu urbain. Donc je pense que c'est important. La démocratie vit de la conflictualité. Après, il faut l'encadrer, la conflictualité. Et il ne faut pas qu'il y ait des attaques ad hominem, etc. Mais c'est nécessaire. Ils ont fait bouger les lignes. Moi, je suis une fanatique de Serge Moscovici qui parlait des minorités actives, qui, par leur hétérodoxie bien embêtante, par leur opposition radicale aux normes, ont fait bouger les lignes et permettent inconsciemment de chambouler l'imaginaire et faire que tout le monde se questionne sur justement la provenance de la viande. Alors ça fait un peu de chaos, c'est pas agréable, et c'est peut-être pas avec les mêmes qui sont radicaux, sont pas forcément ceux avec lesquels arriver à des accords sur fond de désaccord, qui est la négociation et l'art de la négociation.
Alors justement, la troisième partie, on va se séparer de Manon et Arnaud. Je sais plus où j'en suis, pardon. Arthur, excuse-moi. Benjamin et Janelle nous rejoignent parce qu'on va parler effectivement de l'après, un peu de politique, de vision, de comment on peut faire bouger les lignes concrètement avec vous. Benjamin, tu ouvres.
Oui. Alors bonjour déjà. Et donc on voudrait parler politique et des mesures concrètes en fait à mettre en place dès demain pour pouvoir justement améliorer la condition animale dont on parle depuis tout à l'heure. Joachine Porcher peut-être en premier.
Voilà, ce que déjà commencer par les animaux de ferme et donc penser aussi aux autres animaux. Bon, je ne reparle pas du cirque parce que j'étais absolument contre ce qui s'est passé dans les cirques. C'est-à-dire, comme je connais des circassiens, évidemment, c'est autre chose que l'idée qu'on s'en fait et que c'est tous ces animaux ont été euthanasiés là, d'une manière détestable sous prétexte de les libérer de leur petite cage, etc. Enfin bon, passons. Donc, voilà, il y a un enjeu sur tous les animaux domestiques. Bon, les premiers, évidemment, dont il faut s'occuper, c'est les animaux de ferme. Et là, la première chose à faire, c'est de changer le métier d'éleveur. Et donc, de commencer par changer la formation. L'enseignement agricole, c'est vraiment la base des changements. Changer l'enseignement agricole, enseigner l'élevage, ce qui n'existe pas actuellement. On enseigne les productions animales, on n'enseigne pas l'élevage. Donc, enseigner l'élevage, apprendre ce que c'est que... Installer des millions de paysans, au moins un million de paysans, c'est le chiffre de la Confédération paysanne, mais en fait, il est quand même sous-évalué. C'est-à-dire, voilà, peupler l'espace rural de paysans qui vendent localement, qui produisent localement, enfin voilà, faire tout un réseau comme ça, et puis après s'occuper des autres animaux, par exemple des chevaux, par exemple des animaux de compagnie, c'est-à-dire il y a des tas de choses à faire pour changer la vie des animaux de compagnie aussi, qui n'ont pas la belle vie que peuvent avoir des vaches ou des brebis ou des chèvres, là, comme je pense à des chèvres qui sont élevées en montagne. Voilà, donc il y a des tas de choses à faire pour les animaux, qui passe par le travail. Ça, moi, je pense que c'est la question du travail qui doit permettre de repenser nos relations aux animaux et de changer les questions, c'est-à-dire qu'est-ce que les animaux font au travail, quel rapport au travail ils ont, sont qu'on travaille avec mon équipe, quels sont les rapports subjectifs des animaux au travail.
Le plaisir,
plaisir et souffrance, investissement subjectif, rapport affectif avec les personnes avec qui ils travaillent. Ce qu'on a montré avec mon équipe, c'est que là, l'affectivité, la relation affective, elle est centrale dans les rapports de travail entre humains et animaux. Ça compte énormément pour les animaux. Il y a une centralité du travail dans la vie des animaux domestiques. Il y a une centralité de l'affectivité dans le rapport subjectif au travail. C'est-à-dire, c'est vraiment... Puis ça, bon, je pense que quand on est éleveur, on peut l'expérimenter, mais aussi, justement, quand on est circassien ou quand on est... qu'on élève des chevaux, je ne sais pas, ou quand on est... qu'on fait du spectacle avec les animaux, ou qu'on éduque des chiens d'assistance, etc. Voilà, c'est donc penser la question du travail. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les animaux font concrètement? C'est quoi qu'ils produisent? Comment ils le produisent? Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'on leur prend? Qu'est-ce qu'on leur donne? Voilà, penser le travail. Combien de temps ils travaillent? Est-ce qu'il y a un hors-travail? Est-ce qu'il y a des pauses dans le travail? Est-ce qu'il y a tout ça, et penser tout ça pour tous les animaux domestiques.
Et par exemple, mais sur des sujets très concrets, par exemple, on parlait des delphinariums, par exemple, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a encore en France? Est-ce que, par exemple, ça, faudrait les interdire?
Moi, je pense que avant d'interdire quoi que ce soit, comme avant d'interdire les cirques, il aurait fallu s'intéresser aux circassiens, les écouter, regarder comment sont leurs relations avec les animaux. Les circassiens, ils sont comme les éleveurs pour beaucoup. Ils adorent leurs animaux. On leur a euthanasié, là, sous prétexte que les cirques c'est pas bien. Voilà, sans faire attention de quel cirque il s'agissait. Et est-ce qu'il y a des petits cages ou pas? Et s'il y a des petits cages, ben comment on peut aider le circassien à faire autrement? C'est ça qu'on aurait dû faire avec le cirque. Oui, mais c'est important parce que là, il y a des règles qui s'imposent comme ça, des injonctions
Là, je voudrais quand même intervenir parce que c'est pas. Je veux dire, un éléphant n'est pas là pour être sur un tabouret où justement son poids l'écrase et où il y a des maladies. Les fauves dans des cages. Vous respectez les besoins des animaux et là, quand même. Un fauve n'a rien à faire dans une cage ni dans un cirque. Et balader. Là, je pense que autant vous avez raison de promouvoir l'élevage, qui est la dignité des personnes qui travaillent et qui connaissent leur travail. Je pense que. Et là, il faudrait ajouter transition pour un modèle plus traditionnel. Aide à cette reconversion, parce qu'on a demandé aussi beaucoup aux éleveurs. Des efforts, et après on leur demande de cesser des pratiques, donc il faut une aide. Et puis moi je suis d'accord avec vous, il faudrait couvrir la France de paysans pour d'abord pour répondre au chômage qui viendra de la robotisation, et puis au désir de certaines personnes de s'installer, de créer des zones de convivialité. Et là il y a aussi toute une économie à restructurer. Après, quand même, la captivité des animaux sauvages, c'est des animaux, et moi je connais assez bien la question, que les circassiens, eux, aient leur identité souvent dans leur famille construite par ça, je le comprends, qu'ils aient du mal. Mais là aussi, on ne peut pas supprimer la captivité des animaux sauvages dans les cirques sans en même temps, transition, aider à la reconversion et de ces personnes, et peut-être utiliser leur savoir-faire pour aider, par exemple dans le cas des orques ou des dauphins, aider à la, quand c'est possible, à la libération de ces animaux, mais souvent c'est plus possible, ou en tout cas profiter du savoir de ces personnes pour la découverte de ces animaux, mais dans des espaces, pas dans des piscines chlorées, mais dans des espaces libres. Mais je dirais qu'il y a plein de... Le problème, c'est quand c'est fait de manière... Je crois que pour changer un système, il faut avoir un horizon, mais il faut aussi s'interroger au comment. Et on ne peut pas supprimer sans penser à la reconversion et à la transition et à l'innovation.
C'est pas ce qui a été fait
Il y a eu des choses pas mal de faites, mais c'est de toute façon, on ne peut pas changer les choses sans un pragmatisme et sans les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter forcément tous les acteurs, parce que sinon on n'aurait jamais... L'excellent Badinter, qui moi m'a beaucoup inspiré dans le manifeste animaliste, même si je parle beaucoup de Lincoln, mais j'avais passé devant ce qu'il dit sur l'abolition de la peine de mort. C'est vrai que jamais il aurait aboli la peine de mort sans une réflexion profonde sur ce qu'était un progrès et s'il avait écouté les sondages. Donc, si on veut faire des progrès sociaux, il ne faut pas écouter forcément les sondages. Il y a quelque chose comme ça après, mais il y a le comment. Et le comment, ça ne peut pas se faire sans les acteurs et sans donner les moyens aux gens de se reconvertir et sans les désigner comme des coupables. Et le problème,
c'est pourtant ce qui a été fait. C'est exactement
parce qu'on
est
dans une société où il y a des polémiques.
Sur les circassiens, c'est ce qui est fait pour l'élevage.
Oui, mais c'est pas ce. Oui, mais parce que.
Oui, mais c'est bien ça qui se fait.
Parce que justement. Dans les universités françaises, il n'y a rien, il n'y a pas d'éthique animale. À Sciences Po, il n'y en a pas. Ouvrez une chaire sur le vivant, hein, l'écologie, la cause animale. Parce qu'on a laissé à des essayistes, parfois peu modérés, et connaissant parfois peu la réalité du terrain, on leur a laissé toute la possibilité, toute l'audience. Et du coup, ces sujets deviennent explosifs et font que le législateur, eh bien, ou il fait rien, ou il fait les choses. C'est ça le problème.
On accuse souvent ces politiques d'écologie punitive, en fait. Et on dit souvent que l'écologie politique ne proposerait aucun avenir joyeux, qu'on n'arrive pas trop à renouveler l'écologie de manière joyeuse. Qu'est-ce que vous en pensez de cette accusation d'écologie punitive ?
Alors, moi, je pense deux choses. D'abord, oui, il y a eu une manière de culpabiliser, c'est assez contre-productif, et puis parfois de désigner un peu, d'avoir la tyrannie du bien, de désigner un peu l'autre comme impur. Je dirais deux choses. Un, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts, ni même avoir des efforts durables s'il n'y a pas l'estime de soi et le plaisir. Et dans l'alimentation, le plaisir, l'estime de soi dans le vêtement. Donc, du coup, effectivement, tout ce qui est seulement culpabilisant ne marche pas. Il y a vraiment une réflexion. Les anciens, Aristote, et ce qui est devenu l'éthique des vertus, une approche de l'éthique qui se concentre pas seulement sur les principes du bien et mal, ni sur les conséquences, mais sur les manières d'être, insiste beaucoup sur le fait qu'il ne doit pas y avoir de divorce entre le devoir et le bonheur, et que justement, les changements durables se font quand la personne a du plaisir à justement faire le bien. Et donc ça, c'est très important pour combler l'écart entre la théorie et la pratique. Mais j'ajouterais qu'il y a quelque chose quand même, il faut aussi voir la réalité de notre temps. Nous avons aussi, vous en particulier qui êtes plus jeune que nous, nous sommes confrontés à la possibilité de notre impossibilité, à la possibilité de l'effondrement, d'un effondrement pas seulement qui mettrait en péril notre survie, mais qui pointe la précarité de notre civilisation et qui nous pousse à remettre en question tout un tas de choses que nous avons appris et que nous pensions bien, comme l'équation entre le progrès et la croissance. Moi, quand je suis née, la productivité, la croissance, c'était bien. Parce que je suis née dans la fin des années 60, il y avait quand même la guerre qui n'était pas loin, les souvenirs des pénuries de mes grands-parents, etc. Du coup, aujourd'hui, il faut vraiment changer de manière de penser. Mais c'est ça le rôle du philosophe, c'est de mettre un peu d'huile sur le feu, si je puis dire, de faire bouger les lignes, l'hétérodoxie, et puis d'accompagner quand même un mouvement qui, selon moi, est des signes avant-coureurs d'un mouvement que je pense profond et qui relie des enjeux ou des sujets différents comme le féminisme, la cause animale, je ne fais pas d'amalgame, mais la prise en compte de la vulnérabilité. Je pense qu'il y a une révolution anthropologique qui quand même se joue et qui se joue à cet endroit-là, c'est-à-dire la réconciliation de l'humain avec sa corporité, sa finitude. Et ça, c'est très important pour pouvoir accepter d'assigner des limites à son bon droit au nom du droit des autres, humain et non humain, présent et futur, exister. Et je crois que c'est ça que nous devons accompagner par-delà les différences. Mais les différences sont, si on s'entendait qu'avec les gens qui nous ressemble, on s'entendrait pas avec grand monde, ce serait triste. Faut bien un peu de castagne. Mais si vous voulez, par contre, il y a un tel enjeu et il est profond, il est civilisationnel, j'ose dire. Et la cause animale en est un des leviers, je crois, parce que souvent les glaciers, ça fait pas, ça touche pas, mais la souffrance des bêtes, les élevages intensifs, quand même, ça nous questionne sur une déshumanisation terrible. Et dans la littérature, c'est vrai, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre le génocide et ce qui se passe avec les animaux, mais il y a quand même l'idée d'une horreur absolue.
Alors justement, vas-y Benjamin, sur ta question, je pense qu'il...
Oui, sur le foie gras, oui. Justement, on est en Aquitaine, on est à Bordeaux. Et on parlait d'écologie punitive. Est-ce que vous pensez que, souvent la question du foie gras est qu'il n'existerait pas d'élevage pour obtenir du foie gras éthique, est-ce que par conséquent il faudrait interdire le foie gras, Jacine Porcher ?
Moi, ce que je trouve problématique, c'est que ce soit des gens qui ne connaissent rien à la question. Par exemple, surplombant les politiques, les associations, qui décident qu'on va détruire les cirques, qu'on va arrêter la corrida, qu'on va détruire l'élevage, qu'on va arrêter le foie gras. Voilà. Alors qu'on demande pas aux gens eux-mêmes, par exemple aux circassiens, ça a été vraiment une douleur pour moi, parce que j'en ai rencontré, de voir ce qui se passait avec ces histoires de cirque. Alors pour le foie gras, bon, moi je pense que c'est pas indispensable de manger du foie gras. Voilà, ça c'est clair. En même temps, quand j'étais éleveuse, la paysanne avec qui était au hameau, elle faisait son foie gras avec ses canards. Bon, ses canards, ils étaient dehors tout le temps. Elle arrivait avec sa petite manivelle, elle leur mettait dans le gosier du maïs.
Elle les gavait quand même.
Oui, elle les gavait avec du pas voilà. Mécanique. Ça n'a rien à voir avec le gavage industriel au pistolet, comme si on mettait. Voilà, c'est l'industrie. Maintenant, s'il n'y a plus de paysans qui vont faire comme cette vieille dame qui s'appelait Mathilde, qui gavait ses canards, et en plus qui nous disait j'ai fait du pâté, parce que ça ne s'appelait pas foie gras. Elle, quand on lui a dit, quand on a goûté son pâté, on lui dit mais c'est du foie gras. C'est super bon, mais ce n'est pas du foie gras. Elle nous a dit non, c'est mon pâté de canard. Voilà, ça s'appelait pas foie gras dans sa tête, c'était ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait vu faire, etc. Et les oies, elles étaient dehors jusqu'à ce qu'elle ait tué. Après, voilà, c'était, ça n'a rien à voir avec l'industrie du foie gras. L'industrie du foie gras, elle est à Gerber, voilà, comme le reste, comme toute cette industrie des productions animales qui est immonde. Voilà, je le dis depuis 30 ans. Donc voilà, ça en fait partie. Et maintenant, il faut s'interroger là aussi sur voilà, qu'est-ce que font les gens à la place. Parce que ce qui va se passer là, c'est pareil, c'est l'agriculture. Il y a une société, une start-up qui s'appelle Gourmet, qui est en train de faire du foie gras issu de l'agriculture cellulaire. Voilà, il ne s'agit pas de remplacer la merde par une autre merde. Il s'agit de changer complètement la façon de vivre et de travailler avec les animaux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils produisent? Voilà, ben, est-ce qu'on a besoin de foie gras? Voilà, c'est vrai que c'est bon.
C'est un foie malade, hein. un foie qui atteint 10 fois son volume. Alors c'est vrai que les canards avant l'immigration mangent plus, enfin le gavage, bon voilà. Et puis le gavage, pas là, bon.
Le micro, madame.
C'est Béchon. Oui, je disais que c'est du foie malade, qui atteint 10 fois son volume normal, et que évidemment, ce sont de ces types de canards mulards, tout ça, bon, quand. Ils peuvent ingérer beaucoup de nourriture, mais là, c'est vrai que traditionnellement, moi, je suis née en Charente, hein, donc évidemment, Dordogne, c'est pas loin. Donc, je me rappelle avoir entendu des gavages dits traditionnels, c'était peut-être pas géniaux pour les animaux, mais ça n'a rien à voir avec effectivement ce qui se passe où beaucoup meurent, ont des diarrhées, enfin, c'est l'horreur absolue, la torture en boîte. Et là aussi, regardez la publicité, oh, c'est très sensuel et tout. Moi, quelqu'un qui m'offre foie gras à un dîner, là, il est plaqué officiellement, là, d'office, là, c'est vraiment l'horreur absolue, c'est comme la fourrure, pour moi, c'est la. Mais vraiment, voyez, c'est quand même, on ment, la publicité fait ment aux consommateurs. Regardez que c'est joli, ces petites boîtes pour Noël. Moi, quand je vois un bébé, je me dis c'est terrible parce que Noël, il y a des cadeaux, il y a du foie gras à côté. Donc le mal est là parce que c'est le mal. Si c'est le mal, c'est pas si le mal parce que on fait avec ces animaux, on les pousse à l'excès de la souffrance. Là vraiment. La moitié meurt, hein, tellement ils supportent pas. Donc je dirais que la publicité, là aussi, est-ce qu'on peut tolérer que la publicité mente à ce point? Là, je pense qu'on peut avoir des décisions différentes, des positions différentes, mais quand même, le système actuel est un système où le marketing ment et recouvre presque de sensualité ce qui est, pour moi, oui, je dis le mal, l'horreur, et un horreur telle qu'il faut la cacher pour la supporter.
Janelle.
Alors, bonsoir. Alors, donc, dans ce livre, vous évoquez donc toutes les deux la violence de l'expérience, de la vision donc, de cette industrie animale qui est en action. Et donc, comment on peut arriver en fait à exprimer cette vérité sans générer ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété?
Grande question. Cher, peut-être. Oui. Allez-y.
L'éco-anxiété par rapport à la question animale. Je crois que toutes les générations, elles ont à affronter voilà, quelque chose. Par exemple, moi, quand je suis née, c'était la guerre d'Algérie, c'était la guerre froide. Donc, voilà, les gens craignaient qu'il y ait une guerre nucléaire. Voilà, bon, ça ne les a pas empêchés de faire des enfants et ça n'a pas empêché. Voilà. Alors, ce qui est différent, c'est qu'il y a là une réalité voilà, de la possibilité de quelque chose qui n'a jamais existé et qui dépasse voilà, tout ce qu'on avait pu penser que l'avenir, voilà, et qu'il y avait un avenir. En fait, voilà, on se dit, bah, ça se trouve, il n'y en a pas. Maintenant, relier la question animale à ça, bah, c'est justement, peut-être que les animaux, ils peuvent nous aider à reprendre pied sur terre, voilà, et à se rappeler qu'on est des vivants fragiles, qu'on est relié avec les plantes, le sol, que voilà, qu'il y a une unité du vivant, et que c'est cette unité du vivant qu'il faut préserver pour éviter justement de tout casser, quoi. Je pense que les animaux peuvent nous aider à ça parce que eux, bah justement, ils sont pas éco-anxieux puisqu'ils n'ont pas une vision de l'avenir, ils font pas des discours sur l'effondrement. Eux, ils sont là au présent, eh ben, ils portent ce qu'on a, nous, de part animal, lié à 10 000 ans de domestication, qui nous ont construits avec les animaux. Et je pense, moi, justement, que la question animale, comme vous la voyez, qui tend à nous séparer des animaux, elle est catastrophique. Elle va dans le sens, justement, de l'effondrement. C'est-à-dire qu'on n'aura plus ces animaux-là qui nous retiennent à la vie, et à la mort, et au fait, justement, d'être au temps présent. C'est-à-dire de dire, bon, ben, voilà, on agit maintenant. Qu'est-ce que maintenant on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et qu'est-ce qu'on fait avec eux pour, justement, changer tout, quoi, changer tout, à sortir de l'industrie, favoriser l'artisanat. Alors, bon, moi, je parle de l'élevage, hein, puisque c'est mon sujet. Voilà. Et maintenant, être éco-anxieux, ça sert à rien. Je veux dire, être anxieux, c'est pas... il faut se battre, c'est tout. Il faut choisir ses batailles, choisir ses combats, pas se tromper, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, là, en devenant vegan, en faisant des manifestations pour les animaux contre les abattoirs, ils se plantent complètement. Ça ne suffit pas, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, maintenant... je sais pas, moi, quand j'étais jeune aussi, on peut pas dire... Ah ben, à tous les moments, il y a des risques, surtout quand on est jeune. Voilà, il faut se battre et choisir les bons combats, choisir les bons alliés. Et sortir de l'idée qu'on est éco-anxieux. On n'est pas éco-anxieux, on est dans une société
parce que l'éco-anxiété, moi je...
Est-ce qu'on l'a subi, voilà. quand même, l'éco-anxiété.
C'est un terme, une désignation. Donc, si on dit, ces jeunes, ils sont éco-anxieux...
Je pense que là, il faut distinguer de la cause animale. Ça tombe bien, parce que moi, je publie en janvier un livre qui s'appelle « L'espérance ou la traversée de l'impossible », justement, l'espérance dans le contexte de l'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété... C'est pas un mot que c'est vrai que quand on prend connaissance de la réalité et des conséquences globales du réchauffement climatique, toute personne qui a travaillé sur ces sujets, toute personne a vécu une sorte de déprime et des émotions négatives qui vont de la colère, de l'indignation à l'impuissance, au sentiment de honte, parce que tout ce qu'on nous a appris s'effondre, cette précarité de la civilisation. Et ça, je crois vraiment qu'il y a quelque... Mais moi, ce que je dis, c'est que deux choses. C'est que cette dépression, parce que c'est une dépression qui peut durer quelque temps et qui est dangereuse, comme toute dépression, elle a quand même une origine très différente de la dépression réactionnelle ou autre, hein, qui peut amener à la haine de soi et de la vie, et dont la dialectique destructrice est très bien décrite par Kierkegaard dans La maladie à la mort. Le désespoir est une maladie mortelle, mais c'est une maladie à la mort. On vit sa mort, on meurt sa vie. C'est la dépression. Mais là, elle vient de l'amour du monde. L'éco-anxiété vient du désir que le monde soit différent, que le modèle de développement soit différent. Alors on souffre, mais c'est quand même une origine, c'est l'amour du monde qui est derrière. Ça, je crois que c'est très important de le dire pour pas en sortir facilement, parce qu'on n'en sort pas facilement, mais il y a quand même une traversée. Et moi, je crois que paradoxalement, la possibilité de l'effondrement aujourd'hui, c'est le moment de parler d'espérance. Mais alors, ça suppose de comprendre que l'espérance n'est pas l'espoir, qui est un désir de choses personnelles. Ce n'est pas l'optimisme, c'est le contraire du déni. C'est la prise de conscience du mal, de sa gravité. Dans la Bible, il y a plein de passages. La Bible est une histoire de l'espérance, l'Ézéchiel, le retour des ossements desséchés à la vie. Et c'est une énergie, mais qui vient du désespoir surmonté, disait Bernanos, et qui est la capacité à voir dans le chaos du monde actuel, y compris dans son absurdité, les signes avant-coureurs de quelque chose qu'on peut peut-être appeler progrès. À condition d'avoir l'énergie. Et mais je dirais que c'est différent, et je m'arrêterai là, de la cause animale. La cause animale, c'est pire. Moi, je veux vous dire, j'ai eu les deux. Et j'ai les deux. J'ai même eu les trois, puisque j'ai eu la dépression classique. Mais donc, voilà, c'est que la cause animale, il n'y a plus de dimanche. Quand on souffre pour la souffrance des bêtes, il n'y a pas de dimanche. Parce que moi, même après quand même 20 ans, il m'arrive encore de rêver la nuit à ces truies gestantes. Et pourtant, moi, je travaille pas que sur ça. Contrairement à vous, si je travaille que sur ça, je serais déjà dingue.
Vous les avez pas vus en vrai.
Si, je les ai vus. Je suis allée à la campagne.
Vous avez visité des systèmes industriels pour ça
aussi. aussi de poules. Enfin, c'est pas mieux, hein, les poules en cage et qui déplumées. Si, parce que justement, on m'a fait visiter. Mais je suis née à la campagne. Donc, mais si vous voulez, ça veut dire que la cause animale, c'est vraiment désespéré. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous comprenez aussi, on parlait de la symétrie, parce qu'on a le pouvoir de décider de la vie de mort des animaux. Mais il y a aussi le fait que les animaux n'ont pas d'ordinateur pour condamner les humains qui leur font ça, ni condamner les humains pour ce qu'ils ont fait à leurs ancêtres, contrairement aux autres minorités. Donc ils parlent pas, et il y a cette bonté de l'animal qui est dans le présent, justement. Et donc, du coup, c'est quand on est, et c'est pour ça, moi, je comprends tout à fait qu'on soit pas comme moi, parce que quand on est comme moi, on est quand même à moitié dingue. Parce on vit avec lui quand même tout le temps.
Je suis désolée, on va devoir conclure. Tu vas poser la dernière question qui va s'adresser à chacune d'entre vous en 2 minutes. Top chrono chacune. Ça va être difficile, hein, Madame Pelluchon. Vas-y.
Alors, on est à la station Ozone, donc avec une sociologue et une philosophe, dans une grande métropole, donc qu'est Bordeaux. Comment l'écologie politique elle peut dépasser justement donc cette frontière des privilégiés?
Madame Pelluchon, alors, et puis je vous coupe. Allez, en 2 minutes, allez-y.
Mais l'écologie politique, l'écologie, c'est l'avenir. Et ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, la biodiversité. C'est vraiment une autre manière d'habiter la Terre. Et c'est une révolution anthropologique.
Mais comment donc, on peut arriver à toucher, en fait...
Eh bien, justement, parce que c'est une révolution anthropologique et que c'est le cœur de notre humanité qui est touché, la manière dont nous pensons, notre manière, notre habitation de la Terre, dont on mange, dont on respire, dont on vit et vit avec les humains et les non-humains, et dont on organise l'espace. La prise en compte de notre corporité, de notre matérialité, du fait qu'on vit de quelque chose, qu'on vit avec, eh bien, c'est au cœur de la redéfinition d'un nouveau contrat social. C'est tout. Donc, c'est tout le monde est concerné, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche. Même, on pourrait construire une politique non justement idéologique, faite de fractures, de rapports identitaires, mais justement sur justement l'amour du monde. Et donc moi, c'est ce que j'ai appelé tout simplement les lumières à l'âge du vivant. Non, mais rien que ça.
Madame Porcher.
Non, mais je pense que, enfin, ce que je pense, voilà, c'est qu'il faut sortir de ce système économique, voilà, qui nous broie, qui broie les animaux, et voilà, imaginer, et voilà, mais l'élevage, enfin, la relation aux animaux, elle peut permettre ça de. Voilà, de changer de valeur, de relier les choses, de relier la terre, de relier les humains, de relier les animaux. Dans notre équipe, on travaille aussi sur les plantes, par exemple, de tout relier, comme font les éleveurs, les agriculteurs en bio, par exemple, ou en biodynamie, de relier toutes les choses entre elles pour porter un autre projet de société. Moi, je le dis, et puis ça clôture nos échanges, que la révolution, une écologie politique, un changement de vision du monde, ça passe par les animaux. Il y a une éleveuse que je sais qui dit voilà, il n'y aura pas de révolution sans bergère. Et moi, je réponds donc, il y a aussi qu'il n'y a pas de révolution sans brebis. Voilà, donc l'écologie politique, elle doit faire, parce que moi, je parle des animaux, vu que c'est mon unique sujet, elle peut pas faire sans eux. Voilà, l'écologie politique, c'est. Un art de relier les choses pour qu'on soit effectivement ensemble vivants, avec des vivants, en faisant du travail vivant, en basant nos relations sur du travail vivant, pas sur du travail mort, pas sur le travail mort des truies enchaînées, pas sur le travail mort des robots, pas sur le travail mort des hologrammes dans les cirques. Voilà, sur le travail vivant, pour des vivants, dans des univers reliés, où on ne sépare pas les choses, on ne sépare pas les plantes, des animaux, on ne sépare pas les humains des animaux, on ne sépare pas l'humus d'ailleurs de tout ça. C'est-à-dire, moi je suis jardinière, de relier toutes les choses, de voir justement, de revenir, voilà, que l'écologie politique elle soit une écologie d'une harmonie, voilà, d'une harmonie du travail vivant, du travail pour le vivant. Pour les vivants.
Merci beaucoup. Alors, merci Madame Porcher, merci Madame Pelluchon. On peut retrouver vos échanges dans le livre qui vient de sortir pour la mort des bêtes. Merci à la librairie Mola qui qui nous accueille ici dans cette superbe salle. Et donc, ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest se clôturent. Merci beaucoup, merci à tous.